Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été.
Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue au club pour 2 heures de bonnes idées qui vont pimenter votre été. Aujourd'hui, on reçoit un homme super matinal. Là, il est 9h12, on est déjà en milieu de journée pour lui. Il s'apprête d'ailleurs à déguster un osso buco dans le studio, là je le vois. Et après le studio, il poursuit son show sur les plateaux. Tout ça fait pas mal de rimes en haut pour présenter un Bruno. Salut Bruno Guillon.
Bonjour Thomas, merci de m'accueillir.
Alors, on est tellement ravis de vous avoir avec nous jusqu'à 11h. On va parler bien sûr de votre nouveau jeu qui débarque lundi sur France 2, mais aussi de votre longue carrière, parce que vous avez fait quand même un paquet de choses. On vous a d'ailleurs préparé un blind test sur les génériques de vos émissions. Je suis pas sûr que vous avez toutes les reconnaître.
Alors là, oui, je vous confirme qu'il y a des chances que j'ai les vidouilles.
Ouais, si vous êtes imbattable au blind test, il fallait qu'on trouve un truc. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les deux autres membres de cette équipée estivale. D'abord, Marjorie Adelson. Salut Marjorie.
Salut.
Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Eh bien, des bons plans comme d'habitude, on partira du côté d'Oléron et puis je vais vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, un humoriste qui s'appelle Bunaimin.
Ah oui, très très bon, le chinois marrant, c'est
exactement.
Ça. Et puis Joe Hume est avec nous aussi.
Salut,
salut Joe.
Salut, ça va bien?
C'est quoi ton programme?
Bonjour. Bah, ça va très très bien. Le programme de ce matin, on va parler d'un extraterrestre, mais qui a vraiment foulé le sol de notre planète, c'est David Bowie.
Excellent. Avant 10h, notre invité média sera Grégory Hacher, qui remplace à la rentrée Estelle Denis dans l'équipe d'Estelle, qui deviendra donc assez logiquement l'équipe de Greg. C'est sur la chaîne L'Équipe dès ce lundi. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Europe 1. Merci d'être avec nous. Le club est ouvert jusqu'à 11h.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
C'est vrai ce que je disais, Bruno Guillon, c'est un peu le milieu de journée là pour vous là.
Sur une journée normale, ouais. Oui. Je me lève aux alentours de 3h30 du matin.
Yes.
Ouais.
Ça pique un peu quoi.
Pour faire de la radio en direct à 6h, voilà, jusqu'à 9h, et puis après.
Et puis après vous enchaînez. La télé, ouais. Ouais. Et toute la journée sans pause.
Toute la journée sans pause. Non, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que si je faisais une sieste l'après-midi, le soir, je m'endormais trop tard.
Ah oui.
Donc là, du coup, je me prépare à l'EHPAD, puisque en général, je dîne aux alentours de 18h30, 19h.
Ah là là.
Et à 20h, je suis au lit. Voilà, je suis un des rares pères de famille dont l'enfant, à l'âge de 6-7 ans, venait me border et me dire bonne nuit, en fait, puisque je me couche avant lui.
Mais vous n'avez pas des techniques de mini-sieste? Des micro-siestes?
Ouais. Un truc de 10 minutes, là.
Ça peut m'arriver, oui, ça peut m'arriver. La micro-sieste, ça peut m'arriver.
Ça marche, ça?
Ouais, ben en fait, il faut prendre un truc, faut tenir quelque chose dans sa main. Mmh. Et quand le truc tombe, c'est là où il faut se réveiller. Voilà.
Ouais,
et quand vous avez cassé, quatre portables, au bout d'un moment, vous dites, j'aurais été
la sieste. Ça va, ces histoires de sieste. Alors, votre nouveau jeu, chacun son tour. Donc, ça débarque lundi à 11h20 sur France 2. Vous avez un peu la pression ou pas?
J'avais la pression au moment de l'enregistrement. Maintenant, voilà, ça va être aux téléspectateurs de nous faire savoir s'ils adhèrent à ce nouveau concept, mais le jeu est très sympa, donc voilà, j'ai hâte de le faire découvrir.
Pour le décrire, c'est un peu le loto qui rencontre le bowling, c'est un peu ça. Parce que ça démarre avec des boules de loto.
Oui, parce que en fait, c'est un jeu où il y a 30 personnes dans le public, mais ces 30 personnes peuvent être des candidats potentiels, et c'est en faisant des duels qu'ils peuvent accéder à la finale. Et donc, pour les choisir, on s'est dit, tiens, le principe de la boule avec 30 numéros, et donc bah voilà, on choisit les candidats de cette façon.
Et puis ils peuvent accéder à un billard japonais, qui est un jeu français d'ailleurs, comme son nom ne l'indique pas. Il faut viser avec une balle dans l'un des 14 trous qui cachent bien des choses.
Oui, bah, ils peuvent gagner de l'argent, ils peuvent gagner de gigantesques cadeaux, ça peut être des voyages, ça peut être des voitures, et puis ils peuvent gagner des coquetiers aussi, voilà. Et l'originalité de ce jeu, en fait, c'est que tant qu'un candidat n'a pas décroché la cagnotte en fin d'émission, il reste. Donc ça crée un lien quasi familial avec des candidats qui peuvent rester 3, 4 semaines, 1 mois dans le jeu.
Et à un moment, il va falloir s'en débarrasser quand même.
Et ça dépend d'eux. Ah non, il y en a beaucoup qui ont posé des jours de congé par rapport au travail, d'accord. etc. Et ça crée, voilà, ça crée un esprit de famille qui est vraiment super sympa.
Bon, vous aviez fait 3 pilotes de jeux différents pour cette case. Donc quoi qu'il arrive, vous saviez que vous auriez du boulot à la rentrée, a priori. C'est ça l'idée?
Alors, la télé, vous êtes mieux placé quiconque pour le savoir, c'est pas une science juste. Donc oui, il y avait de fortes prédispositions à ce que je me succède sur la tranche, mais rien n'est jamais sûr. Ouais. Donc j'ai vraiment abordé les 3 pilotes de la même façon, en essayant de faire le mieux possible pour garder la tranche.
Mais alors expliquez aux auditeurs, pourquoi est-ce que les amours se sont arrêtés alors que les audiences étaient quand même bonnes, hein?
Alors, les audiences sont très bonnes. Ouais. Merci de le préciser, puisque je crois qu'on a les meilleures audiences de l'émission depuis une dizaine d'années. Mmh. Je pense qu'il faudrait poser la question vraiment à la direction de France Télévisions. Mais
certains disent que ça collait plus à l'époque.
Non, je pense. Que c'est ça, non, parce que justement, je pense qu'on avait beaucoup modernisé les amours. Moi, je suis très fier d'avoir mis notamment en avant des couples LGBT de façon totalement naturelle et sans vouloir dire vous avez vu, on reçoit. Et les traiter comme un couple hétéro normal, etc. Et ça, je sais que ça a apporté beaucoup de modernité à l'émission. Après, voilà, France 2 avait, il y a quelques années, entrepris de changer ses après-midi avec succès. On le voit aujourd'hui entre Sophie Davant, Olivier Mine, le jeune Nagui, voilà, qui font des audiences de dingue.
Et Faustine Bollard.
Et Faustine, bien sûr, évidemment, juste avant. Voilà, ils ont décidé de faire la même chose le matin. J'espère que ce sera avec autant de succès, mais avec le nouveau Télématin, avec, avec le nouveau jeu, avec Laurence qui a remplacé Nagui le midi. Et puis...
Oui, alors c'est ça, vous faites bien de le dire, parce que ça va beaucoup changer quand même à midi avec Laurence Boccolini. Vous l'aviez remplacé une fois, Nagui, d'ailleurs. Vous l'aviez très
C'était
bien fait.
C'était pour un 1er avril.
Voilà, pour un 1er avril, dont tout le monde veut prendre sa place. Ça ne vous a pas donné envie de lui succéder? Ça a été évoqué
Alors, ça n'a pas été évoqué. Et pour le coup, moi, j'étais très content avec ma tranche de 11h20. Et puis, oui, il faut... Pour prendre la place de Nagui derrière une émission, il faut avoir de la prestance. Je ne pense pas que j'aurais eu la prestance de Laurence.
Ça vous faisait peur, ça?
On ne me l'a pas proposé, donc je ne me suis pas posé la question. Voilà.
Quelles sont vos envies pour justement les années qui viennent en télé? Est-ce que vous aimeriez, en plus du jeu, revenir au talk show, par exemple?
Je vais revenir au talk show en radio bientôt. Moi, j'aime beaucoup le jeu. Alors, il y a un truc, c'est que c'est vrai que le jeu, c'est populaire. Et l'adjectif populaire, pour certains, c'est péjoratif. Moi, je suis assez fan des programmes populaires. Voilà, j'ai grandi avec des jeux qui étaient populaires.
Et puis, c'est certainement, je le dis, pardon, à votre place, mais c'est certainement ce qu'il y a de plus dur à faire en télévision, les jeux.
Oui, parce qu'en fait, on est face à des gens qu'on connaît pas. Et moi, j'aime ça. Enfin, c'est vraiment... C'est ce qui me rappelle le sel de la radio, pour le coup. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des candidats qui sont des électrons libres. Et là, pour le coup, sur chacun son tour, à la différence des amours, où pour avoir une demi-heure d'émission, on a enregistré 45 minutes d'émission. Là, sur chacun son tour, pour avoir une demi-heure d'émission, on fait une demi-heure d'émission. Ouais, donc, il n'y a pas de montage. L'émission est faite comme si elle était en direct. Et moi, j'aime ça parce que c'est sans filet. Et voilà, les candidats peuvent sortir des trucs sur lesquels il faut rebondir. Et comme en radio, voilà, si on dit quelque chose, on sait qu'il n'y a pas de montage, on est en direct. Et donc, moi, j'aime ça vraiment.
Et vous êtes excellent dans cet exercice. Merci. Les gens pourront le voir à
11h20.
Oui, c'est ça, 25. Si
ça a augmenté.
Dans un instant, vous aurez le droit à votre portrait sonore, Bruno Guillon. Mais d'abord, c'est la tradition dans cette émission. On écoute une chanson que vous aimez particulièrement en ce moment. Et vous avez fait un excellent choix avec Clara Luciani. Le reste. Sur Europe 1.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse
modeste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
C'était le reste de Clara Luciani, le choix de Bruno Guillon ce matin, dont on va tirer le portrait dans moins de deux minutes. À tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
En compagnie de Bruno Guillon jusqu'à 11h. Et c'est l'heure, Bruno, de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Angélie FM. Premier sur le Poitou. C'est Guigui, c'est Guillon. De Anières-la-Giron jusqu'à Saint-Hilaire-de-Villefranche.
Oh les noms.
Angélie FM. Bon, je suis désolé, on voulait illustrer vos débuts sur Angélie FM, sauf que la radio n'existe plus.
Ah non, c'est clair.
Du coup, impossible
mais retrouver
de trouver
Anières-la-Giron et Saint-Hilaire-de-Villefranche, c'est extraordinaire.
Ah, merci
même,
Google Maps. Voilà, donc on a fabriqué ça nous-mêmes. Vous y avez démarré il y a 12 ans. Enfin, vous aviez 12 ans.
J'avais 12 ans et demi. Ouais.
C'est dingue ça de démarrer aussi jeune à la radio.
Mais ouais, mais
une passion qui venait d'où ?
Mais c'était le début des radios locales, puisque j'avais 12 ans en 1983. Ouais. Et à l'époque, quasiment toutes les villes de France avaient leur radio associative. Et donc, il y en a une qui s'est montée à Saint-Jean. Et je me souviens, c'est pas moi qui avais eu l'idée.
Saint-Jean-d'Angélie. Hein,
Saint-Jean-d'Angélie, exactement.
Maritime,
et j'habitais dans un lotissement. Et il y avait un de mes voisins qui voulait proposer une maquette. Et j'étais le seul à avoir un magnéto cassette. Et donc il était venu me voir en disant est-ce que tu prêterais pas ton étocassette pour que je fasse une maquette pour la radio. J'avais dit bah si, mais enfin si je te prête ton étocassette, je veux quand même participer au truc. Et donc on s'est retrouvé avec 5-6 voisins quasi du même âge de mon lotissement à enregistrer une maquette et on l'a amené à cette radio. Alors la maquette c'était n'importe quoi, mais si tu veux à l'époque des radios locales, il n'y avait pas les automatismes qu'on a aujourd'hui, les systèmes informatiques ouais, qui balançaient des disques, il fallait des gens pour pouvoir, s'il n'y avait personne pour envoyer soit une cassette soit un 45 tours, il n'y avait rien, il y avait des blancs quoi. Ouais. Donc eux ils avaient besoin de petites mains, ils ont vu 6 gamins se pointer, ils ont dit bah, les gars super, on vous embauche tous. Et donc on s'est retrouvés tous à faire de la radio, les 5 autres ont arrêté très vite et moi tout de suite j'ai chopé ce virus, je me suis dit c'est génial, c'est mon truc, je veux faire ce métier là plus tard.
Et vous faisiez de l'antenne dès le début ?
Et je faisais de l'antenne dès le début, c'était génial parce que j'avais donc 12 ans et demi, j'avais pas mué.
Ah ouais.
Et donc quand il y a des gens qui appelaient, non, c'est pire que ça, c'est quand des gens appelaient à la radio, ils arrivaient, oh, bonjour, je disais, bonjour mademoiselle, ouais, ah non, c'est monsieur.
Bruno.
Voilà, c'est ça.
Allez, extrait suivant.
Le matin, je me lève à pas d'heure, la gueule en vrac.
Ah ouais, en plus, je pue des yeux.
Il faut pécho le bus de 7h et faire son sac.
Allez.
Ça nous a marqué hein.
Ouais.
Parce que ça c'est une des parodies du 6-9 que vous animiez sur Énergie. Vous avez commencé par animer les nuits là-bas, puis petit à petit vous avez grandi et jusqu'à animer le Graal qui est la matinale hein.
Exactement, ouais. Ouais, je me suis retrouvé à la matinale.
Avec dans votre équipe, il y a eu notamment Philippe Lelièvre, Jonathan Lambert, puis Manu Payet, Florian Gazan, Camille
ouais.
Combal
ouais.
Et un certain pif quand même pour détecter les talents
hein. J'ai su m'entourer, exactement ouais. Et c'est des gens avec qui oui, il y a eu des vrais coups de cœur artistiques et des coups de cœur amicaux, puisqu'aujourd'hui, voilà, je suis toujours très proche de tout le monde. Et,
ouais.
Mais c'est vrai que dans ce disque-là, c'est parti d'une vanne. À la radio à laquelle on passait à l'époque, il y avait un agent de sécu qu'on appelait le Cerbère de la porte, qui ne disait pas bonjour, qui était très dur. Et
ouais.
À chaque fois, il disait « faut passer ton badge ». Avec un accent de l'Est assez prononcé qui faisait penser que si jamais on passait pas
voilà.
Le badge, on pouvait finir découpé dans le coffre
oui.
De sa voiture.
D'accord. Des conséquences.
Et donc, comme on l'entendait 25 fois par jour, faut passer ton badge. Et c'est arrivé à la période du truc, je dis, faut passer ton bac. Et on s'est dit, bah tiens, voilà, c'est parti de ça. Voilà.
Allez, encore un petit extrait. Je ne sais pas si on a trouvé la bonne voix. Est-ce que vous la reconnaissez ou pas ? C'est Chasseur d'appart.
C'est ma femme.
C'est ça. c'est bien de la reconnaître.
Il a fallu un petit temps.
C'est Marion disais, Guillon, c'est ça ?
Exactement. Mais je me disais, pourquoi ils sont en train de me passer un truc ? J'ai pas vendu ma maison. Oui, c'est Marion. Ouais.
Votre femme depuis 21 ans. Ouais. Voilà. Et elle est voix off et chroniqueuse.
Elle fait des voix, elle fait du doublage notamment pour le cinéma et des séries et puis de temps en temps pour la télé.
Et un peu de radio aussi.
Et un peu de radio.
Et le fruit de votre amour s'appelle Anatole.
Et le fruit de notre amour s'appelle Anatole. Il a 12 ans et il veut devenir animateur.
Sans blague.
C'est vrai.
Ouais. Ah. Alors je lui dis de faire un vrai métier du coup.
Bah, il faut qu'il attende d'avoir deux.
Ouais, ouais, il a un magnétophone, une cassette. Allez, tenez-vous.
Allez, dans un instant, Joe Hume, vous allez enfiler votre petit cosmonaute.
Ma petite combi pour me rendre dans l'espace à la rencontre de monsieur David Bowie.
Tout à fait.
C'est la classe.
La phrase était un peu bizarre. Vous allez enfiler votre cosmonaute.
Ouais. Je suis enfilé des cosmonautes. Vous
voulez, hein, moi,
j'adore ça.
Mettez les mots dans l'ordre. À tout de suite. Le club de l'été de Bruno Guillon jusqu'à 11h. Alors bon, parler de David Bowie devant Bruno Guillon, c'est un peu comme parler du duc de Bourgogne devant Stéphane Bern.
J'aime l'image.
Mais je me suis mis des obstacles tout seul.
Joe Hume va relever ce défi brillamment. Vous vouliez nous raconter l'été 1972 au Royaume-Uni.
Ouais, tout à fait. Mi-juin 1972, le 16 juin pour être précis, sort le cinquième album de David Bowie. Un album qui, dans la généreuse et protéiforme discographie du chanteur, occupe une place un petit peu particulière, d'une part pour tout l'imaginaire qu'il va véhiculer, pour ses chansons intemporelles, pour le mouvement glam rock entre guillemets qu'il a participé à populariser, et puis pour le personnage principal de son histoire, la rockstar venue de l'espace, Ziggy Stardust.
Ziggy played guitar. Moi, Joe, j'avoue que j'aime beaucoup Bowie, mais il a fait tellement de choses différentes, il a sorti tellement de disques que j'ai souvent un peu de mal à m'y retrouver en fait.
Eh ben, je vais vous aider un petit peu, Thomas, du moins pour cette période précise. En tout cas, donc The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, si on veut donner le titre de l'album en entier.
Un peu long.
Si on a envie de fragmenter la carrière de Bowie par groupe d'albums, par exemple, ce qui est parfaitement autorisé pour s'y retrouver, c'est le deuxième album de sa période glam, comme je disais, avec tout d'abord l'album Hunky Dory qui sort en 71, puis Ziggy Stardust et enfin Aladdin Sane en 1973.
Et donc, selon vous, ces albums, ils forment une trilogie comme ça ?
C'est pas un blockbuster non plus. T'imagines si ça avait été pensé comme ça ?
Dans un monde où la pop est menacée, un seul être, un extraterrestre, peut sauver l'avenir de la musique rock à travers le monde.
Non, c'est pas, non, ça, c'est pas non ça non plus. Mais a posteriori, cela dit, on peut l'envisager comme ça, oui. Hunky Dory, Ziggy Stardust et Aladdin Sane, c'est un petit peu une parenthèse enchantée dans une époque dominée par un rock finalement très masculin. Des groupes comme Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, c'est eux qui cartonnent. Et au milieu de tout ça, Bowie, oui, c'est effectivement un extraterrestre qui ouvre une brèche vers une galaxie lointaine où tout est permis, où les barrières sociales tombent, où la sexualité est fluide. Et c'est toute une jeunesse marginalisée qui va s'y engouffrer. En 1972, à l'époque de la sortie de Ziggy Stardust, Bowie, c'est encore un artiste plutôt confidentiel. Mais il a une ambition démesurée et il compte bien marquer les esprits. Il décide donc de faire de Ziggy Stardust son alter ego. Et cette décision-là, elle va tout débloquer en fait. Parce que sous les traits de Ziggy, Bowie se met en scène, il se permet toutes les extravagances, il se teint les cheveux en rouge, il se fait confectionner des costumes flamboyants par des créateurs de partout dans le monde, il se maquille avec outrance et ça devient cet androgyne fascinant en symbiose totale avec sa musique. Et là, le vrai électrochoc Ziggy et donc Bowie sera télévisé. Le 6 juillet 1972, Ziggy Stardust et son groupe les Spiders from Mars se produisent sur le plateau de l'émission Top of the Pops. Mmh. Alors en 72, pour vous résumer, en Angleterre, il y a trois chaînes de télé. Il y a la BBC 1, la BBC 2 et les programmes régionaux. Donc tout le monde regarde Top of the Pops. Donc quand Bowie foule la scène du studio, il se passe un truc magique, il y a un impact énorme et du jour au lendemain, Bowie passe d'espoir à superstar. Après Top of the Pops, tout va vraiment changer.
Ah, c'est un peu comme Bouillon de Culture chez nous, quoi.
Exactement. Ah, il y a un avant et un après Bouillon de Culture. Et ben, en Angleterre, c'était Top of the Pops. Bowie, qui est en pleine tournée, va faire un break pour repenser tout son show. Il va ajouter encore plus de décors, plus de costumes, il va développer le storytelling. Et surtout, le 19 juillet 1972, il y a 49 ans, le 19 août, pardon, il y a 49 ans aujourd'hui, il va prendre une décision symbolique. Sur les façades des salles de concert où d'habitude on annonce David Bowie, il y aura désormais écrit Ziggy Stardust.
Ah ouais, d'accord, carrément. Mais alors, est-ce qu'à un moment, Bowie, à force de s'effacer derrière un personnage, il devient pas un peu des dingos, quand même ?
Oui, si, il y a de quoi devenir zinzin, effectivement, à force de se cacher derrière ce personnage. D'autant que, durant cette tournée marathon qui compte près de 190 dates, je sais pas si vous vous rendez compte, sur 18 mois, c'est énorme, Bowie ne respire pas que l'air des villes qu'il visite, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, il respire quand même plein d'autres trucs, des trucs qui, sur le long terme, vont avoir leur petit effet sur la star. J'ai rien dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même. Puis vient le 3 juillet 1973, dernière date de la tournée Ziggy Stardust. Et alors là, élan de clairvoyance ou ultime coup de génie théâtral ou les deux, David Bowie quitte la scène en annonçant que ce soir, ce sera son ultime concert devant des musiciens un petit peu perdus, un petit peu médusés et un public qui hurle de douleur. Ce qui s'est vraiment passé ce soir-là, en fait, c'est que David Bowie a tué Ziggy Stardust pour reprendre son propre destin en main et se glisser l'année suivante dans la peau d'un nouveau personnage, Halloween Jack. Ça, c'est l'album Diamond Dogs, une nouvelle ère pour une autre histoire. Pour ce qui est de l'histoire dont je viens de vous parler, je vous conseille très fortement une bande dessinée, figurez-vous, éditée en français chez Huguin et Munin, parfaite pour les novices. Une œuvre de Michael Allred, simplement intitulée Bowie, qui résume avec beaucoup de talent toute cette période assez courte, mais ô combien importante, de la carrière de Bowie.
Merci, Joe.
Et puis Bowie aussi, il faut dire qu'il a été acteur de ce que vous dites là.
Bien entendu.
Dans les séries, notamment dans Twin Peaks, on peut la saison 3, on peut retrouver.
On pourrait faire une chronique. Dans un film qui s'appelle Le Prestige.
Oui, de Christophe Nolan, exactement.
Où il joue le rôle d'un savant fou.
De Nikola Tesla, qui a vraiment existé.
Ouais. Il est exceptionnel. Ouais.
C'est votre culture, Bowie ?
Ah mais Bowie, je suis fan. Voilà. Ah ouais. Il y a des chansons qui... Quand t'es pas bien, moi Heroes, dans des moments
bien
un
sûr.
Peu down, je
bien
me
bien
mets sûr. Heroes et je dis allez, on y va,
bien.
Ouais, non, je suis fan.
Allez Bruno Guillon, dans deux minutes, on va accueillir notre invité média, Grégory Hacher, on arrive.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Le club de l'été de Bruno Guillon jusqu'à 11h et comme on manquait un petit peu d'animateur dans ce studio, on s'est dit qu'on allait en rajouter un. Grégory Hacher nous a rejoint. Salut Grégory.
Salut à tous et Thomas, merci.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le nouveau présentateur du talk show L'équipe de Greg sur la chaîne L'équipe dès ce lundi, là c'est démarre. Ouais. Vous prenez la suite de L'équipe d'Estelle après 4 saisons. Vous n'avez pas voulu garder le même titre
J'ai failli changer de prénom, aller à l'état civil, puis je me suis dit non finalement, on va juste changer le titre, c'est plus facile administrativement.
Estelle Denis qu'on retrouvera à la rentrée sur RMC Story, elle va présenter une émission de débat d'actu. Vous l'aviez déjà souvent remplacé avant, hein, une bonne dizaine de fois, mais là j'imagine que c'est quand même une autre pression de devenir titulaire.
Ouais, enfin c'est un autre challenge. Moi, j'ai la chance de pas être tracker ou de pas trop avoir la pression. Non, pas du tout.
Génial.
Alors je sais pas si, comme disait Sarah Bernard, ça viendra avec le talent plus tard, mais en tout cas, j'ai la chance de pas du tout être tracker, de pas du tout avoir peur ou de se ressentir de pression. Après, on sait comment ça marche. Hein. Ça fonctionne, et on continue. Oui. Ça marche pas, on s'échappe. On nous fait nous échapper.
Les audiences sont plutôt bonnes là depuis 4 saisons.
L'émission est un énorme succès. Il faut rendre hommage à Estelle. Elle a créé quelque chose d'incroyable. Tout le monde sait désormais qu'il y a un rendez-vous sport sur la chaîne L'équipe à 17h30 avant et 17h15 à la rentrée. Ils se sont dit je bossais pas assez,
encore
donc je vais faire un petit quart d'heure de
jusqu'à
plus
jusqu'à 19h45,
hein, c'est ça. Et donc c'est vrai qu'elle a créé quelque chose d'assez incroyable, une bande autour d'elle, et donc l'idée c'est de garder l'ADN de l'émission, d'être dans la continuité et en même temps de changer pour que je me mette dans mes chaussons.
Alors pour ceux qui connaissent pas l'émission, c'est toute l'actualité du foot et un tout petit peu des autres sports, avec des débats et une bonne rasade d'humour. Quoi,
c'est ça. Il y a un mélange de foot, de divertissement, que tout le monde se sente... C'est le mot, alors pardon pour l'anglicisme, c'est vraiment de l'after school dans toute sa splendeur. C'est que vous rentrez du boulot, vous rentrez de l'école, vous rentrez de vos études, de ce que vous voulez. Vous devez vous détendre, vous amuser. Et donc, il y a une bande de potes qui parlent foot, sérieusement, avec des plumes de l'équipe, des plumes de France Football, des gens de la vie civile, des consultants ex-internationaux footballeurs.
Ouais.
Et puis on parle de l'actualité foot.
Mais alors du coup justement dans cette équipe de Greg, est-ce que les joueurs seront les mêmes ou est-ce que là aussi il y a eu du mercato ?
Alors il y aura du mercato, vous me permettez tous de garder encore un peu de suspense pour lundi parce que c'est pas si simple que ça, tout est en train
de se caler pendant le week-end là ?
C'est quasiment calé mais tout est en train
de
s'affiner.
Mais Zidane, c'est beaucoup.
Ouais. Zidane, on est assez content. Voilà, il va venir 3 fois par semaine, j'ai pas pu l'avoir 5 fois. Mais une bonne idée, j'aurais dû y penser, mais je sais pas si ça aurait pas buté le budget quand même.
Vicage de Rasso, il
Vikash Dorasso sera toujours là, Jérôme Alonso sera toujours là, Benoît Tremolinas,
Johan Rioux.
Il y aura toutes les plumes de la chaîne et vraiment les plumes de l'équipe et de France Football.
Est-ce qu'il y aura une femme alors?
Oui, bien sûr. Oui. Il y aura, évidemment. Évidemment. On a quand même la chef des femmes qui s'échappe, qui part sur un nouveau défi. Donc moi, malheureusement, je peux pas la remplacer de ce côté-là. Mais on aura évidemment une présence féminine quotidienne. Mais c'est pas pour avoir. Alors par contre, j'insiste bien, c'est pas une présence féminine pour avoir une présence féminine parce que je déteste le côté touche féminine. Oui. Ben, je m'en fous. Moi, ce qu'il faut, c'est des compétences et toutes celles qui vont travailler dans l'émission et qui seront présentes au quotidien sont ultra compétentes, fans de foot, et il y aura évidemment beaucoup de femmes.
Et alors jusque-là, Grégory, vous officiez vous-même en tant que chroniqueur dans cette émission. Vous aviez des avis plutôt tranchés. Mmh. Là, va falloir vous mettre dans un autre rôle plus celui d'arbitre.
C'est ça. Alors les 4 années de Joker m'ont quand même préparé, on va dire, à ça. Mais dans l'ensemble, je vais plus pouvoir donner mon avis. En fait, par moment, je vais lancer des sujets.
C'est frustrant.
Ils vont répondre quelque chose et je vais avoir les boules. Et ça va m'énerver. Donc je vais orienter de manière totalement illégale quelques questions.
Bon, en même temps, c'est pas comme quand on parle de politique ou d'actualité, on peut se permettre un petit
peu. Mais ça peut être pire le foot, en fait.
Ah bah oui, je me demande
si un débat foot peut pas être pire qu'un débat vaccin ou politique, tu vois.
Et pour la première, là, le 23, j'imagine que vous allez parler d'un certain Lionel Messi. C'est possible. Ça a dû vous réjouir, son arrivée en Ligue 1, parce que ça redonne un peu d'intérêt à un championnat qui patinait un peu depuis quelques temps, notamment avec le scandale des droits télé.
Bah, c'est vrai qu'il y a eu ce souci des droits télé. Après... Messi, c'est une chance extraordinaire. Quand j'entends des gens me dire « Ah ouais, mais Messi, c'est bien. » Non, mais vous êtes fous, en fait. Je ne sais pas si on réalise. Bruno rigolait sur Zidane, mais là, Messi, on est sur le plus grand joueur peut-être de l'histoire du monde. Mm. Voilà, c'est qu'on aime ou pas le FC Barcelone, on est obligé d'aimer le jeu de Messi. Enfin, là, je parle devant vous. Messi, il est connu partout. Il vient jouer chez nous et on va pouvoir débriefer sa première rencontre dans l'émission, en parler avant. On n'oubliera pas les autres clubs, je précise. Hein, c'est pas l'équipe du PSG, c'est hyper important que ce soit dit. Mais c'est une chance folle. Et le petit clin d'œil de l'histoire, c'est qu'il y a 4 ans, Estelle arrivait avec Neymar. Moi, j'arrive avec Messi, donc du coup, c'est pas mal. Je me dis, ça peut porter chance.
Vous soutenez un club en particulier ou pas?
Moi, j'ai grandi, je l'ai déjà plusieurs fois sans souci. J'ai grandi en étant au Parc des Princes quand j'ai eu mes premières années ici avec mon père qui m'emmenait voir le PSG de sa fête Suzic. C'était pas du tout le même PSG. Hein, c'était un PSG plus romantique, plus pauvre. Celui de Francis Borrelli. Moi, je me rappelle de matchs au Parc contre Laval. Ouais, c'est pour vous dire que je suis pas tout neuf. Moi, j'ai 45 ans, mais il jouait contre les Frères de la Montagne. Voilà, à l'époque. Laval avec le maillot Lactel, là, il était orange, le PSG jouait contre ça, voilà. Et puis après, je suis parti à Bordeaux où j'ai vécu pendant des années, et j'ai travaillé pour les Girondins de Bordeaux. J'ai été speaker du stade pendant 4 ans, donc j'ai une attache particulière, j'ai bossé pour la radio officielle, donc c'est aussi le club que je suis.
Mais vous allez rester totalement impartial.
Ah non, mais complètement. Mais vous savez, quand on parle de club qu'on a suivi, est souvent pire, en fait.
Ah oui, c'est ça.
Et ouais, on est souvent pire.
Et alors, on parlait des droits de télé. Comment est-ce que vous faites pour les images de la Ligue 1? Parce que l'équipe, vous n'avez pas les droits. Vous êtes très limité, du coup, sur les images. Comment ça se passe?
Il y a le droit, là, ce qu'on appelle le droit à l'information. Ouais. Là, donc, on a le droit à quelques images. On a aussi, cette année, récupéré la Ligue 2. Tous les samedis soirs, il y a le multiplex en clair, hein, du foot en clair. Sur la chaîne L'Équipe, c'est quand même assez incroyable parce que c'est du football de très haut niveau et tout ça. Et après, évidemment, on a la Ligue des Nations qui va revenir. Donc ça, on a les droits. On pourra le diffuser tant qu'on veut. Il y aura beaucoup d'images. Par exemple, une chronique qui s'appelle Le Foutoir de Raphaël Sebaoun sera toujours là. Voilà, et on a toutes les images à l'intérieur.
Bruno Guillon, vous n'avez jamais voulu animer du foot, présenter du foot, le commenter? C'est un truc qui vous
intéresse?
Soyons
sérieux, Thomas.
Non, parce que
laissons faire les professionnels.
Exactement, la différence de Greg, c'est un vrai passionné de sport. Ouais. On fait de la radio tous les deux le matin, donc on se croise quasi tous les jours. Quand il y a le Super Bowl aux États-Unis, c'est le seul gars qui est debout et qui c'est pas le seul gars qui regarde, c'est le seul gars qui comprend les règles.
Ça poursuit, tiens, je continuerai la NFL, le Super Bowl.
Et puis, moi, j'aurais pas son impartialité, parce que pour moi, il y a que l'Olympique de Marseille qui compte. Donc je pourrais pas défendre autre
en fait,
chose.
À chaque phrase, il dira jamais les premiers et ça pourrait même pas relancer en fait avec Bruno.
Exactement.
Ah, qu'est-ce que vous pensez
c'est
de ce
match? C'est qui ce Messi? J'ai entendu parler.
Pas de la mauvaise, pas terrible.
Terrible. Bon, merci mille fois Grégory Achir d'avoir été avec nous. On vous retrouve dès ce lundi 23 août pour la première de l'équipe de Greg. C'est tous les jours, donc de 17h15.
15.
Nous avez dit jusqu'à 19h45 sur l'équipe TV. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Dans un instant, on va partir en vacances avec vous, Bruno Guillon. Mais avant cela, c'est U2, Where the Streets Have No Name sur Europe 1. I want to reach out. Streets Have No Name de U2, la chanson favorite de Bruno Guillon, notre invité ce matin.
Ça fait très plaisir, vraiment.
Et bah c'était un petit cadeau. Dans un instant, on va tailler la route avec vous. On part en vacances juste après ça.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Et oui, c'est le club de l'été jusqu'à 11h. Et ça y est, Bruno Guillon, on va partir en vacances avec vous. On claque la porte de la voiture, on met le contact et c'est parti. Pardon, j'ai un petit problème avec ma caisse, elle démarre pas.
Ça, c'est Clio, c'est le problème. Ouais.
Ça vous dérange pas qu'on prenne la vôtre ?
Pas de soucis.
Ouais, allez. Ah, voilà. Ah oui, quand même. Je crois que ça se passe bien pour vous.
C'est faux, c'est une voiture électrique.
Ah, mais dites donc. Bon, alors, on part en vacances. Où est-ce qu'on va ? Vos lieux de vacances, d'abord, peut-être quand vous étiez petit, vous alliez où ?
Ah bah moi, je suis de Charente-Maritime, donc le lieu de villégiature privilégié, c'était l'île d'Oléron. Voilà. Mais mes parents n'avaient pas des âmes de grands voyageurs. Ouais. Donc l'île d'Oléron, c'était à 45 minutes quand ça roulait bien, 1h15 quand ça roulait un peu moins bien de la maison. Donc c'était l'île
de
d'Oléron.
Saint-Jean-d'Angély.
Exactement. Ouais.
Oléron, alors quoi ? Parce que alors, moi aussi, j'allais à Oléron petit. Vous étiez plutôt Saint-Pierre, Saint-Georges, Saint-Denis, d'Oléron ?
Tout, Boyerville, Saint-Trojean-les-Bains, le petit train de Saint-Trojean, voilà.
Ouais, ça, c'est à l'entrée de
la Cotinière, hein. Avec le port, la criée, les glaces, enfin, d'après-midi, voilà, voilà. L'île d'Oléron, moi, les odeurs de l'océan, voilà, moi je suis resté fan de cette île. Je sais que aujourd'hui c'est l'île de Ré qui est très tendance, mais je parlais tout à l'heure de côté populaire, ouais, dans les jeux. L'île, ouais, d'Oléron a ce côté populaire que j'aime bien. Voilà.
Avec donc parfois beaucoup de monde en été. Maintenant,
oui,
c'est
alors,
peut-être le petit défaut, c'est qu'il y a plus de monde.
Les Beniassou.
Christophe,
voilà,
Ondelat sortait de ce corps.
Non, mais
c'est vrai qu'il nous disait ça, c'est sur le Pays Basque lundi.
Quand on part à la montagne et qu'on est skieur et qu'on, ouais, sait pas faire, les gens de Savoie disent on est des monchus. Quand on part en Corse, les gens de Corse nous appellent des pinsoutes. Ouais. Nous, en Charente-Maritime, les gens qui viennent en Charente-Maritime en vacances, on les appelle les Beniassou. On les appelait, en tout cas, mon grand-père disait les Beniassou.
Ouais. D'accord. Bon, alors ensuite, vous avez fait beaucoup de radio hein, pendant l'été, mais vous arriviez quand même à partir un peu en vacances parfois pendant vos années radio là.
Bah oui, quand je faisais de la radio l'été, je prenais non parce que j'enchaînais une saison normale plus une saison d'été.
Donc quoi, zéro vacances.
Ouais, j'arrivais à avoir à gratter une semaine, voire deux semaines si je m'arrangeais pour enregistrer une semaine.
Ça doit vous faire bizarre là maintenant d'avoir deux mois de vacances.
Et bah, c'est qu'à un moment, je m'ennuie, monsieur.
C'est vrai?
C'est trop long
de moi.
Ouais. Mais en fait, moi, je suis de l'école. Quand j'ai commencé à faire de la radio, vous le disiez, j'avais 12 ans. Et quand j'ai commencé à faire de la radio nationale, je suis arrivé à Paris, j'avais 25 ans. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est il faut éviter de partir trop en vacances parce que quand tu reviens, tu ne retrouves pas ta place. J'ai eu l'exemple 3-4 fois de gars qui partaient. On se voit à la rentrée, puis on ne les revoyait plus. Donc du coup, très très vite, je me suis dit non, je ne vais pas partir en vacances trop longtemps. Et donc j'ai un peu gardé ça, je crois.
Bon, et alors là, maintenant que vous pouvez un peu plus vous permettre de prendre des vacances, vous faites quoi? Alors qu'est-ce que vous avez fait cet été par exemple?
J'ai glandé, et je peux vous dire que ça fait
ça
du
fait
bien.
Du bien.
J'ai lu, j'ai marché beaucoup, j'aime bien faire de la randonnée,
Avec vos deux chiens.
Alors non, j'en avais amené qu'un en vacances, parce que le deuxième, je l'ai eu juste avant de partir et je n'avais pas prévu. Prendre l'air, prendre son temps, quoi. Ouais. Même si prendre son temps, quand on a l'habitude, le reste de l'année, à se lever à 3h30, moi, mat l'été, c'est 6h, donc c'est pas foufou. Hein.
C'est ça. Mais
ça permet de préparer le petit-déj pour les gens qui vous accompagnent.
Et un voyage à l'étranger qui vous a particulièrement marqué? Quel souvenir vous avez?
J'ai adoré un endroit dans le monde, mais c'était pour le boulot, c'est très bizarre. C'était un voyage, mais en même temps, c'était pour faire une émission de radio qui s'appelle Exuma Island, qui est une île paumée au milieu des Bahamas.
Il y a pire comme des locs.
Ouais.
C'est quoi ce bon plan?
C'était pour un James Bond, et on partait dans un endroit où a été tourné un James Bond. C'est génial.
C'est trop bien.
C'est évidemment, si on avait sorti Bienvenue chez les Ch'tis, c'était pas le même dépaysement, si j'adore le Nord. Et donc, cet endroit-là était assez fou. Sinon, il y a un endroit où je rêve d'aller depuis que je suis tout petit. J'y suis pas encore allé. La période actuelle fait que c'est compliqué, mais je rêverais de visiter les temples d'Angkor.
Ah, très bien. Vietnam. Peut-être l'année prochaine, ce sera votre été. Allez, on va vous mettre maintenant devant les vrais grands choix de l'été. Bruno, ça va être difficile, mais il va falloir choisir. En été, Bruno Guillon, est-ce que vous êtes plutôt en mode les amours ou les amis?
Les amis.
Siesta ou fiesta?
Siesta.
En vacances,
plus de kiff, hein.
Celle qu'on ne fait pas l'année.
Voilà. En vacances, vous êtes plutôt du matin ou du soir?
Du matin.
Toujours du matin. En vacances.
Ouais, c'est horrible. Hein.
Quoi, vous levez?
Je me lève à 6h.
Oh,
j'ai une horloge biologique et voilà, elle est foutue. Je peux plus faire de grasse matinée.
C'est un enfer pour la famille, ça.
Et non, j'arrive à tenir jusqu'à minuit. Je suis foufou.
Ouais, voilà.
La même soir, j'ai dû me coucher à 1h15.
La permission. Côté couloir ou côté vitre?
Côté, j'étais très côté vitre, mais maintenant que j'ai un fils, côté couloir du coup.
Burrata ou Bufala?
Burrata.
4 fromages ou Regina?
Regina.
Belle étoile ou 5 étoiles?
Belle étoile.
Dis donc.
Belle étoile.
Twitter, Insta ou TikTok?
Insta.
Insta encore. Vous êtes plutôt short de bain ou plutôt moule beat?
Short de bain. Parce que l'eau est froide.
Ouais, bien sûr. Ben. La crème solaire, vous préférez l'étaler ou qu'on vous l'étale?
L'étaler.
Chichi, beignet ou chouchou?
Les trois, c'est le problème. C'est bien mon problème, monsieur.
Les trois, s'il vous plaît,
ma
monsieur.
C'était ma vanne, c'était toi. Je me disais, mais t'es parti combien de temps? Je suis parti il y a 4 kilos.
Ah oui. C'est le problème de l'été, bien sûr. En voiture, vous êtes plutôt radio ou playlist perso?
Plutôt podcast.
Podcast. D'Onglat, notamment.
Onglat raconte, évidemment.
Raconte, bien sûr.
Évidemment, je les connais tous.
Sur la plage, vous prenez un matelas ou vous mettez direct sur le sable?
Ça dépend. Alors là, pour le coup, ça dépend de la plage.
Ouais. Jeux de société ou jeux télévisés?
Jeux télévisés.
Ouais, vous êtes pas trop jeux de société avec des amis et tout ça aussi quand même.
Si, ouais.
On peut tenter un peu.
Alors non, mais après, je peux. 1h30, c'était parce que j'ai joué au tarot, par exemple.
Maintenant,
quand je vous dis que j'ai une vie showbiz,
d'accord.
Je suis désolé de vous balancer ça au visage. Attention, je vois que vous êtes
ça
un peu, mais voilà.
Quoi.
C'est ça. Ça amène le petit au bout.
Vous partiriez en vacances plutôt avec Arthur ou avec Nagui?
Alors là, c'est une question compliquée. J'adore les deux, mais je dirais Nagui.
Et plutôt Virgin Mojito ou Virgin Tonic?
Je dirais Virgin Tonic parce que c'est l'émission de mon pote Manu Payette.
Ah bah c'est sympa, c'est classe. Merci beaucoup Bruno. Dans un instant, le rappel des titres de 10h et puis on accueillera Cécile Schlouz qui a une petite déclaration à vous faire.
Oh. Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Merci d'être avec nous pour la suite du Club de l'été jusqu'à 11h avec toujours notre invité, l'animateur, le farfadet, le trublion, Bruno Guillon. Rendez-vous compte, on en est déjà à la moitié de cette émission. Le temps file comme Pierre qui roule. Je vous l'ai promis, on va vous tester dans un instant avec un blind test sur vos génériques télé. C'est le seul truc qu'on a trouvé pour essayer de vous piéger à ce jeu. Et puis Marjorie et Adelson, vous allez partager avec nous votre indispensable du jour.
Oui, le spectacle d'un humoriste mordant, il s'appelle Bounaïmin.
Côté musique, Joyum, qu'est-ce que vous nous préparez?
Bah, on va parler d'un sujet dont on est les premiers concernés, c'est chansons qui parlent de la radio.
Ah, ouais, pas mal.
Il y en a plein.
Ah, c'est un bon angle.
Et il y a des tubes.
Et puis on terminera comme d'habitude par un coup de fil à un chef qui nous donnera sa petite recette de l'été aujourd'hui. C'est Nicolas Thomas, chef près de Toulouse, qui sera avec nous. Mais avant tout ce beau programme, cher Bruno, Cécile Schlousse a une déclaration à vous faire.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Vous l'avez remarqué, Bruno, cette émission est un subtil cocktail d'informations et de gaudrioles, mais ça ne nous empêche pas parfois d'être dans l'émotion, dans la vérité du cœur et des sentiments. Et Cécile Schlousse a quelque chose d'important à vous dire aujourd'hui.
Bruno, mon bru, mon nono. Bruno, je vous aime. Vous êtes né à Saint-Jean d'Angély et rien que pour ça, j'aurais aimé y naître aussi. Vous auriez été le premier homme important de ma vie, vous auriez été mon René Angély, je serais devenue votre Céline. Ou encore, vous auriez été mon Adam et je serais devenue votre Ève Angély. D'ailleurs, c'est votre tenue d'Adam dans Star à nu qui a contribué à faire monter en moi ce désir pour vous, Bruno. Je vous aime, Bruno, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous aussi, vous m'aimez depuis des années. Je vais vous le prouver parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Déjà, je suis brune et j'aime les pruneaux. Si on mélange les deux, ça fait Bruno.
Ah, c'est vrai.
Oui, oui. Si ça, c'est pas une preuve qu'on est fait l'un pour l'autre. Ouais. C'est comme le fait d'avoir acheté le même chien que moi, un labrador noir, Gaston pour le vôtre et Gus pour le mien. Comme de par hasard, la même première lettre, le G de Gourgandine. Comme vous pouvez l'entendre, moi aussi, je ne demande qu'à en rire. Vous avez toujours fait de la radio et moi, j'en ai toujours écouté. Et je sais qu'on était des centaines de milliers à vous écouter, mais dans ma tête, ce n'était que à moi que vous parliez. À vos débuts, vous avez animé les nuits de Énergie entre minuit et 6 heures. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis insomniaque et sous antidépresseur. Et je sais que vous le saviez, c'est bien pour ça que vous avez choisi cette tranche horaire pour me parler, pour me rassurer. Merci Bruno. Quand vous avez repris la chanson de Sayan Supakru en 2002, vous disiez quand elle s'est mise à demi-nue, elle m'a déçue, des petits seins et un gros cul. Je sais que vous parliez de moi, Bruno. Et je ne vous cache pas que personne ne m'a aussi bien décrite que vous et je vous en remercie. Et ce n'est que le début d'une multitude d'actions que vous avez fait pour attirer mon attention. Vous avez présenté le français le plus extraordinaire sur TF1 parce que secrètement, vous espériez que je participe à l'émission. J'en suis sûre, je suis là, fidèle au poste. Vous savez tout comme moi, on ne badine pas avec l'amour et c'est bien pour ça que vous décidez d'animer les amours. Oh Bruno, vous êtes mon cupidon et votre flèche m'a touché en plein cœur. Et je vais vous dire, si nous avions participé en couple à l'émission, nous aurions eu un sans faute, c'est certain.
Ah bon, alors on va vous tester du coup.
Allez-y.
C'est quoi par exemple le groupe sanguin de Bruno Guillon?
Bruno, vous êtes A+. Et qui est A+, Bruno? C'est bien moi. Coïncidence? Non.
Ah, c'est fort. Ses repas préférés, c'est quoi? C'est
la blanquette et les riz de veau. Et c'est fou, accrochez-vous bien, vous n'allez pas y croire. Hier midi, j'ai mangé quoi? Une blanquette à la cantine.
Ah,
oh là là, mais même moi, ça m'érisse les poils, tout ça.
Un dernier petit test quand même. Sa phobie, par exemple, sa plus grande phobie.
Les serpents? Ouais. Eh oui, c'est et mon signe chinois est le buffle d'Asie. Et de quoi se nourrit le buffle d'Asie, Bruno? Bah des serpents. Génial. Je suis là pour vous protéger. Époustouflant, n'est-ce pas?
C'est magique.
Je ne vous pose pas les mêmes questions me concernant parce que je sais que vous connaissez parfaitement les réponses et vous avez déjà... Oui, tout de moi. Et en plus, vous êtes mariée à la même magnifique femme, Marion, depuis 20 ans et je ne suis pas là pour semer la zizanie. Alors, je vous pardonne de ne pas avoir donné de réponse aux 250 mails de candidature que je vous ai envoyés pour travailler avec vos côtés. Je sais bien que ce n'est pas que vous ne vouliez pas de moi, mais le silence était la seule protection pour éviter toute déconcentration. Ça s'appelle la peur, Bruno. Oh Bruno, Bruno Guillon, vos initiales sont beaux gosses. Mon beau gosse. Et les miennes sont cessées. Je vais donc cesser de vous perturber. Je sais que c'est beaucoup à digérer. Je vous laisse reprendre un peu votre souffle et je vais me permettre de déclarer aussi ma flamme. Ne soyez pas jaloux, Bruno, pour ma dernière dans le club de l'été. Ah. Et oui, chacun son tour. C'est cadeau. Anissa, Thomas, Jean-Phi, Valentin, Cyril et tous mes collègues chroniqueurs, je vous aime, mais j'aime encore plus Stéphane Bosque et Nadia Milosevic. Et oui, les gars, c'est les patrons des eaux. Et je terminerai avec cette citation. S'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour.
Bravo, Cécile.
Bravo.
merci beaucoup.
Merci.
Bravo pour cette dernière. C'est touchant, hein. C'est touchant, Bruno.
Et s'il y a besoin de sang, vraiment, je suis donné.
Allez, dans un instant, Marjorie, vous nous faites partager votre coup de cœur pour un humoriste.
Oui, une petite pépite, son spectacle s'appelle Chinois Marrant et c'est Bounaïmin.
On revient dans deux minutes.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Bon, Bruno Guillon, je sais que vous n'êtes pas le dernier pour la rigolade. Hein. Les gens le savent, les gens aiment ça.
Merci, bien sûr.
Et Marjorie, justement, vous allez nous parler d'un spectacle d'un humoriste, Bounaïmin. Son spectacle est disponible sur MyCanal.
Oui, alors Bounaïmin s'est fait connaître en fait au Jamel Comedy Club. Vous l'avez peut-être aussi aperçu dans Problemos de Eric Judor.
Ah oui, très bon. Très voilà. Bien sûr.
Et pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, il a un look de chaman avec une longue chevelure. Il ressemble un peu à ce pote toujours un peu stone, vous voyez.
Ouais.
Mais voilà, il ne faut pas se fier aux apparences, parce que dès qu'il commence à parler, on découvre qu'il a un débit mitraillette et une énergie à revendre. Son spectacle s'intitule Chinois Marrant et vous allez comprendre pourquoi.
Moi, des fois, on prend pour un Vietnamien et j'aime pas ça du tout. Parce que pour moi, les Vietnamiens, c'est les Arabes de l'Asie, vraiment. oui, à chaque fois, je prends un Vietnamien, il s'appelle soit Nguyen, soit Tran. Comme c'est avec deux familles au Vietnam. Bienvenue chez les Chinamiens, tu sais. Ils se reproduisent entre eux, les mecs. Mais après, je vous comprends, parce que pour vous, les Occidentaux, tout ce qui est bridé, c'est chinois. Un Vietnamien, c'est un chinois. Un Japonais, c'est un chinois. Un Algérien trisomique, c'est un chinois. Et nous, ça nous sert. Je sais pas si vous savez, mais en France, 80% des restaurants japonais sont tenus par des chinois. J'ai pas l'impression qu'à chaque fois que vous commandez des sushis, vous jouez à la bataille navale. Menu B1, B2, C3.
Voilà, il a un style assez cru, il n'hésite pas à taper sur tout le monde, on l'entendait, hein, les blancs, les noirs, les arabes. Ouais. Vous l'avez compris, son premier problème à lui, c'est d'être chinois. D'ailleurs, le racisme, c'est un sujet qui revient souvent dans son spectacle.
Parce que moi, j'habite dans le 18e et c'était relou. Les gens qui viennent me voir, tu sais, qui me reconnaissent, ils sont teubés. Le genre de gars, ils viennent me voir, tu sais, ils ont les yeux pas d'accord, on dirait le PS. Ils viennent me voir et ils me font hey, « Eh, wesh, le bridé ». Ce qui m'a choqué, en fait, c'est qu'il m'a appelé le bridé. Moi, je suis bridé. Faut mettre les choses en place. Il y a plus d'Asiates que de vous. Je ne suis pas bridé. Vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi stupéfiant? On n'est plus nombreux que vous. Applaudis pas! Vraiment, c'est un truc de ouf. On est 1,4 milliard. On n'a pas encore fini de compter. S'il n'y avait pas les Asiates sur Terre, la Terre pencherait sur le côté.
Ouais, il a une espèce de ouais, c'est génial. Il a cette désinvolture en fait qu'on trouve chez très peu d'humoristes. On sent que vraiment ça va à 1000 à l'heure dans sa tête. Il balance sur tout le monde sans se préoccuper vraiment du politiquement correct. Alors son spectacle, il est autobiographique. Il nous raconte des choses personnelles, ses galères, comme par exemple son arrivée à Paris. Il faut savoir qu'il a vécu à la rue les premiers temps où il est arrivé, et du coup, bah, sa difficulté à draguer les filles.
Tout le monde me disait, tu sais, femme qui rit à moitié dans son lit. Mais quand t'as pas de lit, c'est galère, tu vois. Mais de temps en temps, j'arrivais à squatter chez des meufs. Ah, je sais que je suis pas sexy, je le sais. En fait, je suis maigre, je suis très très maigre. Hey, j'enlève cette tunique là, je disparais. Il y a une touche de cheveux qui flotte comme ça, avec Aqualie qui court derrière. Eh, hey, perruque gratuite. Made in China, inflammable. C'est gratuit quoi. Non, je te jure. Hey, les sœurs, je suis interdit de séjour à Château d'Eau. Je sors du métro et les Renois m'attendent avec Sarbacane. Je pense que le designer qui m'a conçu, il a fait un trait et il est mort. La dernière fois que j'ai couché avec une fille, le lendemain matin, elle m'a lavé avec les draps.
Voilà, donc il se moque de lui-même, il se moque un petit peu de tout le monde, et tout ça avec une aisance qui est vraiment impressionnante. Il navigue voilà, entre impro, sketch, digression même, et il peut partir très très loin. On sent vraiment qu'il adore dialoguer avec le public. Il se met sur une chaise comme ça, il vous parle un petit peu comme si vous étiez dans son salon, et surtout il est sans filtre. Il nous raconte vraiment tout ce qui le saoule dans la société, et vraiment il épargne aucun sujet. La bêtise, la censure, on entendait tout à l'heure le racisme, ou encore l'homophobie.
Mais vous les hiboux, vous avez inventé l'homophobie. Vous avez peur des homos? Vous les avez parqués dans des quartiers? Tu sais, dans toutes les grandes villes du monde, t'as un quartier gay. Paris, le Marais, Londres, The Village, Tunis, tu vois? Et... Pire que ça, vous avez légiféré sur l'homosexualité. Vous faites des lois sur la sexualité. Tu sais, le sexe, c'est comme la religion, c'est entre toi et toi-même. Quoi, souvent, quand t'es pas en couple.
Voilà, donc si ce que vous avez entendu vous a plu, sachez que son spectacle Chinois Marrant est disponible sur MyCanal. Et si vous voulez le voir, il joue aussi en ce moment son nouveau spectacle à l'Européen. Ça s'appelle Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent.
Très très bon, très bonne recommandation ce matin. Merci Marjorie. Et Bruno, il y a quelques années, on avait découvert votre talent de comédien, à vous aussi, dans une pièce de Feydeau. C'était avec vos collègues animateurs, vous aviez fait l'Hôtel du Libre-Échange.
Ouais.
Ça vous a pas donné envie de remonter sur scène, ça ?
De dingue. D'ailleurs, je crois que le jour où j'arrêterai les matinales radio, c'est la première chose que je vais faire.
Du théâtre ?
Oui, on m'a proposé plusieurs fois depuis de faire des pièces. C'est hélas incompatible avec le boulot de matinalier. Mais non, clairement, dès que j'arrête la radio le matin, je...
Ah, génial.
Ouais. Je suis allé encore voir une pièce hier et c'est un truc que j'adore. Ouais.
Et avec un style en particulier, un genre que vous aimeriez explorer ou...
Bah, pour le coup, là, j'ai joué de la comédie, mais...
Une comédie de boulevard
ouais, tout ça, mais alors là, pour le coup, je serais ouvert à tout.
Ouais, bah, génial. Dans un instant, le blind test spécial générique, on vous a promis, ah, oui. Vous émission de télé, mais avant ça, on va écouter Boulevard Désert sur Europe 1 avec Dis-moi comment tu danses. Très bonne matinée.
Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout ça va durer? Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es.
L'amitié, c'est les cœurs, les amis. C'est ceux qui t'accompagnent, même quand tu chantes faux. Quand t'es pas hyper juste, ça arrive. Ils s'arrêtent pas, les cœurs. C'est difficile de définir l'amitié, la vraie. Et quelque part, c'est très simple. Quelque part, c'est très simple. C'est quand...
Tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non, quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus où ta tête allait. Il s'arrête pas les cœurs, non, il s'arrête pas. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es.
Les amis, c'est ceux qui sont encore là, point. C'est ceux qui sont encore là après toutes ces années, après toutes les distances, après toutes les crises. C'est ceux qui sont encore là, vraiment là, et malgré tout. Tu vois, c'est très simple. C'est très simple, c'est quand.
Tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus où ta tête allait. Quand la vie va pas, non, quand la vie va pas. Tu sais plus sur quel pied danser, tu sais plus où ta tête allait. Il s'arrête pas les cœurs, non, il s'arrête pas. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer. Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer. Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es. Comment tu danses.
C'était Dis-moi comment tu danses de Boulevard Désert, choisi par Bruno Guillon ce matin sur Europe 1. Préparez-vous, Bruno, dans 1 minute 30, ça part en blind test.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
La suite du club de l'été avec Marjorie Adelsom, Joe Hume et notre invité, bien sûr, Bruno Guillon, aux commandes de son nouveau jeu à partir de lundi sur France 2, 11h20. Ça s'appelle Chacun son tour. Et alors, vous êtes le roi du blind test, Bruno, on s'y dit. On va pas pouvoir l'avoir sur la musique, ou alors il faudra aller chercher dans des tubes péruviens des années 30.
Attention, j'en connais deux, trois quand même. Ouais, bien sûr.
On avait peur que ça fasse légèrement décrocher le public d'Europe 1. Du coup, on vous propose un blind test sur les génériques d'émissions de télé auxquelles vous avez participé, soit comme animateur, soit éventuellement comme candidat.
Oula.
On a élargi un petit peu. Voici le premier. Là, vous étiez animateur, co-animateur.
Peut-être le français le plus extraordinaire.
Non.
Ah non, c'est avec, Nagui,
avec Nagui, tout,
oui,
le monde
oui,
joue.
Tout le monde joue, exactement, bien joué, bien avec joué. Le code de la route, c'était ça.
Exactement, ouais, voilà, exactement. Puis après il l'a fait avec Michel Simès, Stéphane Bern, voilà. Tout le monde joue, c'était un jeu en direct comme ça. Bon souvenir avec Nagui, c'est votre pote Nagui.
Ah bah oui, c'est, voilà. C'est un plaisir. Voilà. Oui, bien sûr, le plus compliqué quand j'anime avec Nagui, c'est de se rappeler qu'on fait de la télé pour les autres. Et pas,
c'est ça.
Comment être très pote, évidemment, on a tout de suite envie de rentrer dans des anecdotes, mais non, c'est super.
Allez, bah, prochain extrait.
Bah ça, pour le coup, c'est le générique de Chacun son tour.
Ça aurait été malheureux de ne pas l'avoir.
C'est clair. Mais même le générique est sympa.
Ouais, il est sympa. Chacun son tour.
C'est vrai, sympa.
Il y a quelque chose à faire. Allez, suivante. Ça, c'est plus dur.
J'étais animateur ou...
Ouais. Avec un certain Florian Gazan. Il y avait du Camille Combal aussi, du Rachel
Le
Grain Trapani.
Faites entrer l'invité.
Exactement.
Ouais. Exactement.
Produit par
Dominique.
Dominique Farrugia.
Exactement, hein. Et par Dom.
Et d'ailleurs, le titre de l'émission, vous avez été piqué ou racheté, je ne sais pas, par Michel Drucker sur Europe 1.
Oui,
et
mais
il a fait cette émission aussi.
Exactement, mais ils avaient eu. Michel m'avait appelé pour me demander. Ils avaient eu la classe de me demander si je voulais bien donner le titre.
Ça, c'est cool.
Bon souvenir, ça aussi, cette émission, Faites entrer l'invité.
Bah, c'était super. Ouais, c'était super.
C'était un talk.
C'était les premiers pas de Camille à la télé, ouais. Pour le coup. Et c'était un talk. Et voilà, il bossait avec Dominique Farrugia. Enfin, je veux dire, c'est le Graal, quoi. Ouais. Moi, c'est enfin, un des plus beaux cadeaux que la vie m'ait apporté. C'est un jour j'ai réussi à faire rire Dominique Farrugia. Bon, c'est peut-être arrivé une ou deux autres fois. Mais non, voilà. Avoir un rire de Dom, ça vaut toutes les récompenses du monde.
Oh, le générique suivant, vous allez le reconnaître forcément.
C'est horrible de dire vous allez le reconnaître forcément.
Aïe.
Non ?
Ah ouais. Si, on le demande bien rire, bien sûr. Bon, super expérience.
Produit par Laurent Ruquier.
Ouais, et Catherine Barma.
Et Catherine Barma, bien sûr, à l'époque, vous étiez ensemble tous les deux. Vous avez fait la saison 4, vous, c'est ça ?
J'ai fait la saison.
En 2014.
Ouais, j'ai fait la rustine, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont remis On ne demande qu'à en rire parce que le talk qu'ils avaient lancé à l'époque n'avait pas très bien fonctionné. Donc ouais. Ça s'arrêtait en cours de saison. Donc j'ai fait rustine.
Quelques mois.
Ouais. J'ai fait rustine quelques mois, mais c'était une expérience.
C'est sympa de faire rustine ?
C'était génial. Rustine ou pilote, moi, ouais. Je suis dans le domaine automobile, moi. J'ai fait beaucoup de pilotes, j'ai fait de la rustine.
On n'a pas mis les pilotes, hein, parce que ça aussi, il y en avait quelques-uns.
Ah ben, je peux vous dire que si jamais on avait signé tous les pilotes que j'ai fait, aujourd'hui, Hamilton aurait dû mourir à se faire.
Allez, la suivante.
Ah ouais, les victoires.
Les victoires. Ça aussi, ça doit être génial de présenter. C'est nos petits Grammy Awards à nous.
Quoi. Oui, non, c'est une expérience géniale. Après, il faut savoir, les victoires de la musique, quand on est animateur, c'est un exercice compliqué. C'est-à-dire
c'est
que
dur, non ?
Si l'émission marche, c'est grâce aux artistes. Si l'émission ne marche pas, c'est à
faute.
Cause de l'animateur. C'est un peu un truc perdant-perdant.
C'était avec Thomas Touroud ?
Mais alors, j'ai fait une fois avec Virginie Guillaume, mais une fois avec Thomas, mais c'est génial. Enfin, pour le coup, c'est. Là, on parlait tout à l'heure de stress. Là, ouais, on a quand même.
Gros Barnum.
Quand le générique part, puis surtout, c'est du direct. Et c'est là où la radio aide. Moi, je me souviens sur des victoires, avoir à l'époque Nathalie André, qui était la directrice des divertissements de France 2. Vous lancez l'artiste en disant et tout de suite voici Jane avec Comme, et là dans l'oreillette on dit c'est pas prêt, il y a un problème technique. Il dit que vous allez pouvoir applaudir dans quelques instants, je vous rappelle que vous pouvez voter.
Oui,
et là dans la régie et à un moment je me souviens de cette scène où donc t'as plus rien, t'as tout donné, et dans la régie on dit on a un gros problème, il faut combler 2 minutes.
Oh, putain.
Et je me souviens de cet exercice, j'ai fait au métier, j'ai improvisé.
Ça, c'est l'avantage d'être habitué à la radio aussi.
Exactement. Et je me souviens quand Jane est vraiment rentrée et tout, les gens dans le carré régime m'avaient applaudi, ça m'avait fait plaisir parce que j'avais vraiment réussi. Mais bon, il était temps que ça s'arrête parce que j'étais à deux doigts de filer mon numéro de sécurité sociale quand même à la fin.
Allez, suivant.
Ça, c'est. C'est pas Manu et Bruno sont dans la télé ?
Il y a de ça. Mais c'est pas exactement. Non. Je crois qu'il était avec vous, Manu Payet. C'était sur France 4, 2012.
Ah non, fidèle au poste ?
Fidèle au poste.
Non, il était pas là.
C'était un jeu, hein, c'est ça ? Avec des humoristes ?
C'était un jeu qui tournait autour de la télé. C'était le programme qui, à l'époque, avait remplacé Touche pas à mon poste sur France 4.
Quand
Cyril était parti sur D8 à l'époque.
Allez, le suivant.
Ouais. La télé.
Ah, direct.
Ouais.
Super souvenir, ça.
C'est la génial. C'est, j'en ai comédie. Parlé il y a pas très longtemps parce que c'était un programme sur comédie et on a failli. À l'époque, arrivé en quotidienne sur M6.
Ah ouais, fort.
C'était en négociation très avancée. Et puis, il y a un gars que vous connaissez peut-être qui s'appelle Alexandre Astier, qui arrive avec un autre programme qui s'appelait Kaamelott. Et M6, c'est alors la Téouze ou Kaamelott ? Kaamelott ou la Téouze ? Et ils ont choisi Je ne sais pas pourquoi.
C'est con parce qu'on pourrait aller voir la Téouze au cinéma. Là,
c'est ça.
Il y aura une trilogie, ce sera un long
métrage. Voilà, je dirigerai un orchestre symphonique.
C'est quand même ballot. Mais, ça tient un peu de choses, la vie, finalement.
Mais la Téouze, c'était super parce que c'était justement avec Manu Payet, enfin à l'intérieur il y avait quand même Géraldine, Nakache, il y a eu plein de gens
avec des parodies de la télé quoi.
Exactement, on jouait tous des personnages de télévision. Ah, Manu faisait drôle. Nikos, mieux que personne. Nikos. Ouais. Ça c'est une récréation ça.
Ouais.
C'est tout le monde a son mot à dire, c'est le jeu d'Olivier Mine et de Sidonie Bonnet et c'est vraiment une vraie récréation ce jeu.
Ça c'est du lundi au vendredi à 18h. Voilà où on jouait avec la langue française quoi.
Exactement, voilà. et on se marre, voilà, on se prend pas au sérieux et avec une bande de copains, voilà, genre Arnaud Gidoin, Philippe Lelief, Soren Prévost, etc.
Alors vous étiez en tant que participant dans celle-ci, la suivante aussi. Pas facile.
C'est l'émission d'Arthur, c'est les deux shows, bien
les
sûr.
Les deux shows, Arthur. Ouais.
C'était super, ça aussi.
Bonne expérience, ça aussi.
C'était génial.
Là, vous faisiez partie de la bande. C'est vrai que vous êtes toujours dans la bande d'Arthur. Hein, quand même.
À l'instar de ce que je disais tout à l'heure par rapport à Nagui, voilà, faire de la télé avec Arthur, c'est, enfin, voilà, on est quand même derrière des tauliers de la télévision. C'est au-delà de la bienveillance que les deux peuvent avoir à mon égard. Ils ont une vista et puis un sens du rythme de la télé qui fait que c'est un plaisir, vraiment.
Ce générique, qu'est-ce que vous l'avez ? Il y a de l'ambiance en tout cas.
J'étais candidat ou
Non, présentateur.
Ah ouais. J'en ai fait des trucs.
C'était avec ou sans Joker ?
Ah mais oui !
Ah oui,
mais c'était mon...
C'était un été. Hein.
C'était mon premier 2. Jeu que j'ai animé sur France 2 un été.
Et ben voilà.
Exactement.
Il n'est pas resté dans votre mémoire. Évidemment.
Il n'est pas resté dans la mémoire des gens non plus. Hein. Attention.
<C'est ça. rire> Peu de gens s'en souviennent. Hein.
Non. Il y avait peu de téléspectateurs en même temps. À l'époque.
Celui-là, il a duré plus longtemps.
Ah ben ça, c'est quand j'ai animé le club de la presse. Ça fait très générique d'émission politique.
Vrai. Hein.
Jacques Chirac, bonjour.
Mais cela dit, il y a un peu de ça, parce qu'il y a un duel là.
Je sais pas, c'est quoi, c'est le grand concours.
Le quatrième duel.
Ah, le quatrième duel.
Génial,
ah,
ça aussi, jeu.
C'était mes débuts. Ouais.
C'était un peu un jeu autour du poker, quoi.
Exactement. Ouais. C'était. Vous savez que je me suis retrouvé, j'ai fait le casting pour ce jeu. C'est en fait, je disais tout à l'heure, ça a été vraiment mon premier jeu pour France 2. J'étais sur France 4 et je suis arrivé sur France 2 grâce à ce jeu et j'ai été pris sur France 2 à cause d'un pain technique.
C'est vrai.
Ah ouais, je vous jure que c'est vrai. Il y avait plein d'animateurs de talent hein, qui avaient fait le casting.
Ouais.
Et moi, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, le principe de ce jeu, c'est qu'un candidat jouait face à l'autre. Et un peu comme dans la bataille navale, il y avait un mur qui montait, qui baissait, etc. Et à un moment, le mur ne monte plus. Et moi, j'ai continué à animer comme si de rien n'était, en improvisant un truc, etc. Et c'est ce qui a fait que j'ai été pris. Ils se sont dit, si ce gars arrive à combler sur ce truc-là, mais c'est parti de là. Hein.
Oh, formidable. Et vous avez été très brillant, hein,
franchement.
Bravo. Dans un instant, on va continuer à parler radio avec toi, Joe.
Oui, tout à fait. On va parler de ces morceaux qui ont pour thématique la radio, ce média immortel.
Formidable. À tout de suite.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Alors Bruno Guillon, là avec Joe Hume, on va allumer la radio pour faire un focus maintenant sur les chansons qui rendaient hommage à ce média à part qu'est la radio.
Et oui, Marjo, Thomas, Bruno, vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'il y a une tradition dans la pop, celle des radio songs, ces chansons qui, dans des styles parfois complètement différents, ont pour sujet la radio et celles et ceux qui la font.
Bien sûr.
Radio Gaga.
J'adore.
Radio
c'est
Gaga.
De là que vient le nom de Lady Gaga d'ailleurs.
Exactement, ouais.
Oui.
Bah oui. Elle a choisi son pseudo.
Je pensais que c'était
Lady
son vrai nom.
Non.
Stéphanie Gaga. Non, oui, effectivement, c'est en hommage à cette chanson de Queen qu'elle a sorti son pseudo. C'est un single qui est sorti en 1984 et qui est une véritable ode à la radio, un morceau presque nostalgique des grandes heures de la FM 70s, et puis un constat un petit peu amer sur l'importance grandissante de la vidéo dans l'industrie musicale. Et puis c'est la seule chanson qui s'attaque au sujet de l'émergence de la vidéo à l'époque. Non, c'est pas la seule chanson, pardon. Puisqu'en 79, il y a évidemment la plus connue, celle des Buggles, qui avait senti le vent tourner et qui écrivait une chanson pour le moins explicite sur le sujet. Ce qui est bien, c'est que cela dit, ce sont de très mauvaises chansons, donc on les aime pas du tout. C'est vraiment pas du tout des tubes. Cette chanson, elle est culte, évidemment. Elle a une histoire assez paradoxale, parce que malgré ses paroles qui, traduites donc en français, signifient « la vidéo a tué les stars de la radio ».
Ah bon, ça veut dire ça ?
Ça veut dire ça. C'est la toute première chanson qui a été diffusée avec son clip vidéo sur MTV, la chaîne musicale américaine, le 1er août 1981, il y a donc 40 ans, pile poil, Chantal. Mais les chansons sur la radio, je vous le dis direct, il y en a autant que de stations sur la bande FM, hein, c'est-à-dire beaucoup, peut-être même trop. Thomas, chanson de radio qui vous vient en tête direct, vous pensez à quoi ?
Moi j'en ai une, c'est On the Radio de Summer.
Bah ouais. Il y en a eu en français aussi.
Il y en a eu en français, ouais, carrément. Carrément. 1979, Donna Summer, On the Radio, l'histoire d'un amour perdu qui refait surface à travers une lettre d'amour lue à l'antenne d'une radio. C'est presque une chanson sur la libre antenne, hein, en fait. Ouais. C'est une balade disco hyper efficace qui rentre dans la catégorie des chansons qui célèbrent le côté réconfortant de la radio. Parce que la radio, qu'elle soit musicale, généraliste, informative, c'est un média d'accompagnement. Ce sont des voix qui nous accompagnent du réveil à notre lieu de travail, de votre bureau à votre appartement, sur la route des vacances. Et quand ça va pas.
Attends, mais ça, c'est pas une chanson sur les DJ, ça ?
Ben oui, c'est une chanson sur les DJ, mais pas sur les DJ de boîte de nuit. Justement, on en parlait tout à l'heure sur les DJ radio. Parce que jusqu'à la fin des années 80, dans les radios, il y avait des vrais DJ qui défendaient leur programmation, qui mettaient eux-mêmes les vinyles sur la platine parce que sinon, il n'y avait rien qui passait. Et puis, qui faisaient parfois décoller la carrière d'artistes émergents. Pour certains, la radio, c'était carrément un truc vital. D'ailleurs, le rappeur LL Cool J disait carrément...
Je peux pas vivre sans ma radio.
Je ne peux pas vivre sans ma radio.
Monsieur est bilingue, j'ai l'impression.
Anglais,
Wall Street English.
Thomas Colline.
Bah oui, parce que la radio, c'est un accessoire qui a marqué l'histoire des musiques urbaines et de la culture hip-hop. Parce que quand LL Cool J dit je peux pas vivre sans ma radio, en fait, il parle de son Ghetto Blaster, ce gigantesque poste de radio portatif, enfin portatif si on est musclé, que les rappeurs posaient dans les rues de New York pour accompagner toutes leurs activités de tous les jours, le sport, le graph, le breakdance. La radio, ça faisait partie intégrante du paysage.
Mais alors finalement, Joe, est-ce que la radio, c'est pas devenu maintenant un peu un thème du passé pour les artistes ? Alors, est-ce qu'ils sont pas passés à autre chose ?
Quand on cherche les chansons qui parlent de la radio, c'est souvent années 70-80, mais vous savez, dans la pop, c'est un petit peu comme dans la vie. Hein, on n'arrête pas de dire que la radio va mourir et puis finalement, on se rend compte que c'est un média immortel. Donc, elle n'a jamais complètement disparu de l'imaginaire pop partout dans le monde et dans tous les genres. Les Smashing Pumpkins ont chanté la radio, le groupe français Superbus a sorti la chanson Radio Song en 2004, Rage Against the Machine avec Guerrilla Radio, Beyoncé a même carrément crié son amour pour sa radio dans une chanson intitulée Radio. Ça, c'était sur son troisième album solo, I Am Sasha Fierce, en 2008. Et ça parlait pas du tout de la radio, comme d'un truc du passé, en fait. C'est même un des morceaux qui marque une vraie évolution artistique pour la chanteuse. I Am Sasha Fierce, pour rappel, alors, c'est l'album de Single Lady, de Halo. Ouais. Et c'est l'album qui fait de Beyoncé l'une des nouvelles grandes icônes de la pop moderne. Et le fait que ce morceau, Radio, soit placé juste derrière Single Lady dans la tracklist de l'album, à mon avis, c'est tout sauf un hasard.
Formidable, la radio éternelle machine à fantasme hein, pour le monde de la musique. Merci Joe, comme Bruno Guillon d'ailleurs, éternelle machine à fantasme.
Ouais, mais c'est, j'ai posté un truc il n'y a pas très longtemps sur mon Instagram qui disait, en reprenant une vieille affiche américaine, la radio, le média qui fait bosser les gens moches avec une jolie voix depuis 1897. Je trouve que c'est vrai, voilà, moi, on m'a souvent dit, t'as un physique de radio.
Oh, c'est dur, mais alors cela dit, ça fait quand même très longtemps que vous êtes à la radio maintenant. vous avez fêté vos 50 ans là, en juin, c'était sur le plateau des Amours d'ailleurs, c'était très sympa. Mais c'est vrai que vous avez un côté quand même éternel ado, toujours un peu avec le coin de l'œil rieur comme ça. Et je constatais que finalement, dans toutes les matinales, ce sont que des gens de votre génération. Dans toutes les radios musicales aujourd'hui, vous nous en avez parlé de Manu Payet tout à l'heure notamment, mais ce n'est pas le seul.
Oui, il y a Difool, il y a mon pote Manu Lévy.
Ouais. Vous êtes tous de cette même un peu génération. Comment ça se fait en fait?
Alors, je pense qu'il y a deux raisons. C'est que déjà, les radios qui sont aujourd'hui des gros groupes médias veulent avoir confiance en la personne qui va être là le matin. Animer une émission de radio à 6h du matin, ça sous-entend se lever tous les jours. Et bêtement, c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Se lever tous les jours à 3h30 pour aller faire de la radio. Et puis, il n'y a pas autant de gens que ça qui se bousculent au portillon pour venir faire des matinales en radio. Ce qui personnellement m'arrange, parce que moi j'ai encore un crédit sur ma maison qui dure encore une douzaine d'années.
Je croyais sur la carte de la cantine.
non mais c'est vrai, c'est dommage, mais c'est vrai que ça se bouscule pas tant que ça.
Moi je trouve ça très très fort justement que vous arriviez encore.
Mais c'est une passion en fait. Je sais que ça arrive des fois qu'on me vanne sur ce côté un peu toujours ado, genre il veut pas vieillir, etc. Moi je déteste le jeunisme, donc je trouve qu'il n'y a rien de pire. D'ailleurs, à l'antenne sur Fun, pour pas la citer, voilà, j'assume complètement le fait que j'ai 50 balais, je m'en fous. Mais après, voilà, c'est vrai que vivre dans ce milieu-là, évidemment, c'est pas comme, et j'ai rien contre eux, mais c'est pas comme vivre dans un milieu d'experts comptables.
Ça aide à rester jeune, quoi.
Ça aide. Ouais. Voilà, moi, je suis entouré la moyenne d'âge des gens qui m'accompagnent, c'est 25 ans, quoi.
Allez, dans un instant, notre guide Marjorie Adelson nous fait découvrir un bon plan pour nos vacances. On part où aujourd'hui?
On va partir dans une région que Bruno Guillon connaît bien, puisqu'on ira à l'île d'Oléron.
J'adore.
Oh, la Fayotte.
Eh oui.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill. Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
La suite du club de l'été avec Bruno Guillon, Nathalie Corré qui s'est incrustée dans ce studio et qui sera là à 11h, évidemment, avec Philippe Goudler. Et puis Marjorie Adelson, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui, Marjorie?
Je vous emmène à l'île d'Oléron, mais d'abord, on va s'amuser un peu. Bruno Guillon, vous êtes un habitué de l'île d'Oléron, mais est-ce que vous la connaissez si bien que ça?
Oula.
Ah, et ben pour m'en assurer, j'ai décidé de vous proposer un petit test.
Oh, décidément.
Est-ce que vous êtes prêts?
J'y vais.
Fort Boyard. Mais il n'a pas animé, vous avez animé Fort Boyard.
Non.
Olivier Mine.
J'ai le record de présentation, de participation. Ouais.
Allez, première question. Combien de communes compte la ville d'Oléron?
Je dirais une dizaine.
Un petit peu moins.
8.
Allez, bonne réponse. On vous accorde un demi-point. Alors, si je suis sur la plage de Gatso, dans quelle commune je me trouve?
Gatso, oh là là, vous êtes pas loin de Saint-Trojan?
Exactement, bonne réponse. Allez, une dernière pour la route. En quelle année a été inauguré le pont d'Oléron?
C'est un peu avant ma naissance. Ah, ou peut-être après, non, peut-être 74. 68 ou 74?
Avec 68, vous êtes pas loin,
69?
Un peu
67? 66?
Oui, 66.
C'est plus. À l'entrée du pont de l'île d'Oléron, il y a une stèle où il y a marqué ce pont a été construit, etc. Ouais. Et il n'y a eu aucun mort durant la construction. Et moi, quand j'étais petit, j'étais persuadé que justement, c'était une stèle qui annonçait qu'il y avait plein de gens qui étaient morts en construisant ce pont.
C'est affreux.
Voilà, anecdote de gaieté.
Bon, vous n'êtes pas trop mal sorti, ça va. Vous connaissez bien l'île.
Voyant, merci. Alors, justement, qu'est-ce que vous nous conseillez de voir à Oléron?
Alors, Oléron, c'est d'abord ses plages avec ses 100 km de côte. Vous en trouverez forcément une où vous vous sentirez bien.
Il y a des plages magnifiques.
Et oui, selon si on aime les vagues ou pas. Alors, si vous êtes avec des jeunes enfants, la plage du Gatso dont on parlait justement est parfaite car elle est en fait abritée des courants et des vents marins. Et puis, si vous préférez une ambiance plus sauvage, je vous conseille la plage des Saumonards. Alors, elle est en bordure de forêt. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Mais bien sûr.
Voilà. Et on peut y faire des randonnées à vélo.
Ah, du vélo sur le sable.
Oui, on appelle ça des fat bikes. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ouais, avec des grosses roues.
Exactement. Ce sont des sortes de VTT qui sont adaptés au sable. Alors, on peut choisir deux randonnées, une de 15 km ou une autre de 25 si vous vous sentez l'âme sportive. Et puis, après l'effort,
le réconfort, bien sûr.
Exactement. La balade se termine en grande pompe avec une dégustation d'huîtres. Ça se passe dans une petite cabane de Fort-Royer, accompagnée d'un verre de vin, bien sûr.
Pas mal.
Plus calé.
Et bien sûr. Et puis, plus au sud de l'île, vous avez un autre bon plan.
Et oui, je suis là pour mettre un peu de sel dans votre vie, ou en tout cas, dans vos vacances. Et pour ça, quoi de mieux qu'une petite visite dans les Salines, à la découverte de ce qu'on appelle Exactement, l'or blanc, bien Thomas. Alors le Port des Salines propose justement une petite visite pour tout connaître sur l'histoire de la saliculture. Alors c'est une expérience immersive. On passe comme ça de cabane en cabane afin de découvrir le fonctionnement du marais. Et puis jusqu'à la fin du mois, vous pouvez même vous initier à la récolte du sel avec un paludier. Voilà, profitez, c'est jusqu'à la fin du mois, je ne sais pas si ça vous tente.
Bah oui, c'est sympa comme tout. Allez, on va quitter Oléron maintenant, mais on reste en Charente-Maritime.
Oui, on part à Saint-Césaire et on remonte le temps à la découverte des hommes préhistoriques.
Bah oui, bien sûr, c'est le site de paléontologie, Saint-Césaire.
Exactement, voilà, vous m'avez devancé. Alors justement, on est en ligne avec Vincent Arnutano, vous êtes le responsable, bonjour.
Bonjour Vincent.
Bonjour Marjorie, bonjour à tous.
Alors
bonjour.
Vous êtes le directeur du Paléocyte. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que Bruno Guillon visiblement est un fin connaisseur, c'est un lieu immersif qui nous permet d'en savoir plus sur la préhistoire, c'est ça?
Absolument, donc il a été construit sur le lieu même de la découverte de Pierrette, qui est néandertale. Et donc il fait 2000 mètres carrés environ, et puis il est assis sur 18 hectares de forêt. Voilà. Donc c'est un site sur lequel il faut compter à peu près 3 à 4 heures de visite minimum. Et qui vous immerge complètement en préhistoire. C'est vraiment la volonté du département, c'est-à-dire que vous venez aventure unique et une aventure qui vous emmène dans les vieux temps.
Alors justement, cette aventure unique, elle commence par une exposition, je crois.
Absolument. Donc quand vous arrivez, vous découvrez ce qu'on appelle le hall. Sur place, il y a des animaux qui ont disparu évidemment, comme le mégalocéros, un cerf géant, une famille à tigres de sabre, les rhinocéros, les nœuds, un mammouth, et puis évidemment des vestiges de crâne des animaux, en comparant toujours ces animaux qui étaient gigantesques et qui ont disparu vers moins 10 000, moins 12 000 ans.
Voilà, donc ils sont complètement reconstitués, notamment en grandeur nature et avec des poils aussi, c'est ça?
Absolument, c'est ce qu'on appelle les reconstitutions hyper réalistes, et vous y croyez.
Je crois qu'il y a un Bruno Guillon avec des poils aussi qu'on peut voir à l'entrée.
Non mais je suis allé, c'est génial à faire, notamment avec les enfants, c'est extraordinaire, ouais. Le site est vraiment superbe. Ouais, ouais.
Exactement, et puis en plus dans l'exposition, il y a des thèmes qui sont assez peu abordés quand on parle de préhistoire, notamment vous nous parlez de l'importance des femmes dans la préhistoire. Ah.
Absolument, alors c'est un sujet qui tient à cœur, parce que c'est un crâne de néandertalienne qu'on a retrouvé, qui a à peu près 20 ans. Et donc cette année, on met à l'honneur la femme à travers les âges, et notamment en préhistoire, où elle avait un rôle bien plus important qu'on a pu le dire à travers les siècles.
Elle chassait, c'est ça les femmes dans la préhistoire, c'est ce qu'on dit?
Oui, absolument, de toute façon, elles chassaient, elles étaient aussi des chefs de tribu, etc. Donc c'est ce qu'on essaie de présenter à travers une salle avec une nouvelle production en 4K cette année.
Et puis voilà, elle participait à l'art aussi, notamment dans les cavernes, on a trouvé des traces Absolument. De mains féminines.
Tout à fait. Dans les études qui sont faites actuellement, on arrive à voir que certaines mains négatives, celles qu'on voit en ocre rouge ou noire, appartenaient certainement à des femmes.
C'est fou de se dire que l'homme préhistorique était peut-être plus féministe que nous.
Bah oui, c'est la faute à l'histoire qui a été racontée par des hommes.
C'est ça, on n'a pas beaucoup évolué.
Alors on le disait, c'est une expérience en immersion. Donc il y a aussi des ateliers pour faire comme l'homme de Cro-Magnon. En quoi ça consiste?
Alors oui, le site il se veut vraiment ludique et pédagogique. Et donc on immerge complètement le visiteur. Alors quand il y a beaucoup de monde, étant donné qu'il y en a beaucoup, les ateliers sont démonstratifs. Alors on a fixé des ateliers en fin de journée sur lesquels on appelle ça les ateliers participatifs où quand vous avez vu l'animateur faire du feu, ben là on vous donne un kit et puis vous faites du feu par friction, par percussion, vous faites de l'art, voilà, donc tout autour de la participation et de l'immersion.
Voilà, donc on apprend à faire du feu comme à l'époque. Merci beaucoup Vincent Arnutano.
Je
rappelle que vous êtes le directeur du Paléocyte. Merci.
Merci pour toutes ces découvertes. Dans un instant, on passera un coup de fil à Nicolas Thomas, le chef de la promenade à Verfeuil, à côté de Toulouse. Mais avant ça, on écoute un Gold, Katrina and the Waves, avec Walking on the Sunshine, marcher sur le soleil. Un truc hyper dur à faire. Bonne matinée sur Europe 1. Merci d'être avec nous. C'était Walking on Sunshine de Katrina and the Waves sur Europe 1. Allez, tout de suite, on passe à table dans le club de l'été.
Le club de l'été, présenté par Thomas Hill sur Europe 1.
C'est Kiki, c'est Guigui, c'est Guillon. Angélie FM, premier sur le Poitou.
C'était important encore remettre une petite dose d'Angélie FM sur Europe 1 ce matin. Bon allez, on est de retour pour les dernières minutes de l'émission et pour terminer comme chaque jour, on va passer un coup de fil au chef d'un resto pour sa recette. Aujourd'hui, on est avec Nicolas Thomas, le chef de la promenade à Verfeuil. C'est à côté de Toulouse. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thomas, bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes, vous, un ancien violoniste professionnel de l'Opéra de Toulouse, reconverti en chef et aujourd'hui étoilé au Michelin. Donc bon, ça en impose. Hein. Moi perso, j'ai fait 6 mois de batterie et je sais faire des lasagnes. Et je vous présente Bruno Guillon qui peut vous faire une quiche Lorraine pas dégueu. Hein.
Alors sur la cuisine, globalement, je me débrouille pas mal.
Il se débrouille très bien. Hein. Ouais, j'adore cuisiner. Bruno Guillon. Et alors vous cuisinez quoi? Plutôt bio ou local, c'est ça?
Extrêmement local, ouais. Ouais. J'essaie de me centrer un maximum sur les producteurs autour de chez vous. Sur les légumes qui sont autour de chez nous, voilà. On a pas mal de choses qu'il faut aller chercher quand même un petit peu, mais on peut avoir des fruits, des légumes, il y a des huiles d'olive aussi autour du village, des fruits rouges, il y a quelques producteurs de brebis aussi, donc on va avoir des fromages, du lait de brebis, pareil sur la chèvre aussi, lait de chèvre, fromage de chèvre, et puis après, bon, il y a des producteurs de viande autour de chez nous, et j'essaie de travailler vraiment sur un secteur assez resserré de toute façon avec l'Occitanie. Ouais. On bénéficie quand même d'une région qui est assez riche maintenant avec la fusion. Donc,
et tout ça, ça va nous servir pour la recette que vous nous proposez aujourd'hui.
Oui, absolument. On va rester vraiment sur le côté saisonnier. On va partir avec un petit travail autour de la courgette. Là, sur les marchés, on peut trouver des belles courgettes fleurs. Donc, c'est des fleurs de courgette femelle avec encore la petite courgette qui est attachée avec. Oui. Donc, on peut aller au marché, d'abord trouver donc quelques jolies fleurs de courgettes, donc bien ouvertes, hein, c'est important, il faut y aller assez tôt le matin. On peut se trouver une petite brousse de brebis, fromage frais de vache ou de chèvre équivalent, une belle botte de basilic. D'accord. Et puis quelques framboises fraîches. Après, on va estimer qu'à la maison, on a tous peut-être de l'huile d'olive et une petite poignée de poudre d'amande. Et là, on va se faire une recette très, très estivale, pas très compliquée, mais voilà, qui permet de faire une très, très belle entrée. On rentre chez soi, on enlève la petite courgette, on garde la peau surtout, et puis on va la couper en petits morceaux. D'accord. Et on va la faire cuire, allez, 2-3 minutes dans l'eau bouillante salée pour qu'elle soit un petit peu en compote, quelque sorte. Et dès qu'elle est cuite, on vérifie avec la pointe d'un couteau, on la sort et on la rafraîchit dans une eau glacée. Ouais. On ne jette pas l'eau qu'on a utilisée pour la courgette. On va blanchir le basilic, la botte de basilic. On les feuille bien sûr avant. Mais pareil, les feuilles une dizaine de secondes dans l'eau bouillante. Et après, pareil, on rafraîchit. Et après, on prend un petit mixeur. Je pense qu'on en a tous à la maison. Mm-hmm. Et on va mixer la courgette, le basilic. On ajoute la poudre d'amande un peu qui va faire un petit lien en dessous. Et voilà, déjà, on a la base de notre recette. La fleur, après, donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien ouverte au marché. C'est qu'on va juste enlever les pistils à l'intérieur.
D'accord.
Voilà, une petite tige marron à l'intérieur. C'est pas nocif pour la santé, mais c'est un goût un peu amer. C'est pas hyper pas agréable. Bon, ouais. Donc, on va faire très simple. Du coup, après, on prend notre petit fromage, donc brebis, vache ou chèvre, et on va remplir délicatement la fleur. Et après, on replie les pétales.
Ok.
Voilà. Et après, on fait cuire ça, allez, 30 secondes à la vapeur, dans une cocotte minute, quelque chose comme ça. Pas la peine de faire une grosse cuisson. C'est juste pour assouplir la feuille et que ça enveloppe bien le fromage. Voilà, on met au frigo une trentaine de minutes pour que la pétale de la fleur adhère bien sur le fromage. Et après, on fait très simple, on prend une assiette plate ou même creuse, on dresse une jolie cuillère donc de la purée de courgettes assaisonnée avec le basilic et la poudre d'amande, un petit grain de fleur de sel quand même pour assaisonner. On pose notre fleur qui a été farcie avec le fromage dessus. Et le petit twist après, le petit truc sympa de l'été, c'est de mettre quelques framboises fraîches. Voilà, donc... Soit vous prenez les framboises, hein, vous les coupez en deux, en quatre, hein, et vous les disposez dessus. Petite astuce de cuisinier, sinon vous prenez les framboises entières, vous les mettez au congélateur une demi-heure ou une petite heure, et une fois qu'elles sont bien figées, bah, vous les écrasez vous prenez un petit sac, un sac zip là pour conserver, vous les écrasez un petit peu, ça va juste libérer les grains sans écraser le fruit. Et là, vous saupoudrez la petite préparation courgette, fromage et basilic avec ce petit grain. Ça va amener et de la couleur et une petite acidité, une petite pointe de sucre aussi. Voilà.
Magnifique. Très bonne association.
Et voilà.
Pourrais vous prendre ça ?
Ouais, ouais, deux, quatre. Merci Nicolas, chef de la promenade à Verfeuille. Merci d'avoir été avec nous ce matin. En vrai, vous le disiez, hein, la cuisine, c'est votre truc, hein, Bruno. Vous
c'est ma deuxième passion après la radio. Ouais.
Je crois que vous vous débrouillez pas mal hein, sur les œufs en meurette. On m'a dit.
Ouais.
Et les huîtres chaudes façon Claudette. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça ?
Claudette, c'est ma maman. Et c'est une recette. Alors, mes grands-parents vivaient dans l'île d'Oléron. Donc, vous voulez que je vous donne la recette vite fait ?
Ouais.
Vous faites un beurre manié avec donc, du beurre un peu mou. Vous rajoutez des biscottes que vous écrasez. Vous rajoutez de l'échalote, du persil, du sel, du poivre. Vous prenez vos huîtres. Vous mettez une poignée, une cuillère à café de ce petit mélange.
Ouais.
Vous passez les huîtres au four 5-6 minutes, le temps que ça devienne un peu croustillant
coloré,
sur le dessus. Vous sortez vos huîtres et vous dégustez. C'est les huîtres à la Claudette.
Magnifique, magnifique.
Bah on va vous rappeler demain à moins 10 pour avoir une nouvelle
exactement.
Recette.
Un petit mot encore de télé, parce que depuis quelques années, vous présentez Les Enfants de la Musique sur France 3. Ça va continuer, ça à la rentrée, ça revient ou pas ?
Non, Les Enfants de la Musique, ça s'est arrêté. On a fait la dernière sur une spéciale années 80 en fin de saison dernière, puisque je crois que désormais, la case du vendredi de France 3 sera occupée par des films de cinéma, me semble-t-il.
D'accord, ça bouge là aussi. Et vous deviez animé Interville aussi avec Olivier Mine. On était ravis de cette nouvelle.
Ben,
ça a été reporté à cause du Covid, annulé. Ça reviendra pas ?
Eh ben, je ne sais pas du tout.
Vous savez pas ?
Là, je ne sais pas du tout. Là, pour le coup, la pandémie a eu raison de nos projets. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est aujourd'hui.
Bon.
Mais je serai là dans Chacun son tour.
C'est ce que j'allais dire.
Et puis samedi, il y a quand même la dernière des amours. Voilà, avec une fin assez touchante. Je suis assez fier de la petite astuce trouvée pour dire au revoir aux téléspectateurs qui suivent cette émission depuis 26 ans.
Eh ben, soyez là au rendez-vous samedi pour la dernière des
exactement.
Amours et donc lundi pour votre nouveau jeu à 11h20 sur France 2. Ça s'appelle Chacun son tour et on vous souhaite beaucoup de succès, Bruno Guillon, avec cette nouvelle aventure.
Merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment.
Ben, c'était très chouette d'être avec vous pendant 2 heures et demain à votre place on aura le plaisir de recevoir Marianne Chazelle. Merci à toute l'équipe du club à la préparation de cette émission.